baroque et classique, dans la France du XVIIe siècle, Olivier Lestis et Philippe Frétinier.
Bonjour, vous êtes sur Radio Grand Ciel, l'émission La France au XVIIe, baroque et classique, en compagnie de Philippe Frétinier, qui, la dernière fois, évoquait les questions du baroque et du classique, encore une fois avec tous les guillemets qu'on peut mettre autour de ces deux notions, de l'influence espagnole dans la littérature de l'époque et également de sa diffusion en Europe. Mais vous n'aviez, Philippe Frétinier, pas tout à fait terminé de nous parler de cette diffusion.
Non, parce qu'il faut bien voir que l'Espagne, avant 1640, ça a l'importance et le rayonnement culturel que Versailles va avoir du temps de Louis XIV.
Oui, donc c'est Charles XV, très important.
Là, on est plutôt sous Philippe IV. Hein.
Philippe IV.
Donc c'est vraiment... Oui. La différence, évidemment, c'est que l'Espagne connaît déjà un déclin et qu'il y a un effet retard dans le domaine de la culture et des arts, c'est-à-dire que l'Espagne du début du XVIIe commence à s'affaiblir politiquement, alors que c'est l'apogée de son rayonnement culturel.
Oui, c'est pas forcément très surprenant. On a souvent constaté dans l'histoire, justement, un appétit particulier des arts au moment, justement, des déclins, oui, voire des décadences. Oui.
Hein. Et donc, alors, c'est d'autant plus important que, en Espagne, il y a vraiment la passion du théâtre, et ça, c'est ça qui va irriguer beaucoup, en tout cas la France. On dit en général que le fondateur du théâtre espagnol, c'est Tirso de Molina, avec un genre donc qui est la comédia, et on attribue 1000 pièces à Tirso de Molina.
C'est peut-être un peu beaucoup.
Ça fait beaucoup, hein, mais c'est une production très très importante. Alors ça peut s'expliquer par un fait particulier à l'Espagne, que là par contre, pour le coup, on ne va pas retrouver beaucoup en dehors de l'Espagne. Il y a un genre littéraire en Espagne qui s'appelle l'auto-sacramental, mais c'est ça qui a aussi probablement contribué à populariser le théâtre par ailleurs. Donc c'est un genre religieux. À l'origine, c'était autour de la fête Dieu, un spectacle de théâtre qui était mis en scène, qui petit à petit a dérivé vers des choses un peu plus fantaisistes. L'Église a essayé de garder tout ça à peu près en ordre. Et donc, ça a nourri, ça a donné, entre guillemets, du travail à des troupes de comédiens qu'il a fallu après alimenter le reste de l'année. Enfin, ça a joué un rôle dans l'essor du théâtre en Espagne. C'est absolument, absolument sûr. Tout à l'heure, j'y reviendrai parce que j'ai d'autres choses à dire avant de faire le saut vers Corneille. Mais ça nourrit Corneille. J'ai expliqué l'importance espagnole à Rouen, en plus Corneille était élève des jésuites, et un des vecteurs aussi de cette circulation des choses dans l'espace européen, ce sont les jésuites.
Oui, mais qui sont partout, effectivement.
Voilà, alors ils ont joué doublement un rôle, le rôle de fer de lance, de propagateur de la contre-réforme, je crois déjà l'avoir mentionné d'ailleurs. Et puis, le rôle de l'enseignement. Les jésuites ont une histoire extraordinaire dans le domaine de la pédagogie.
Hein. Oui, on a du mal à associer quand même les jésuites et Shakespeare ou Molière, par exemple.
Mais d'ailleurs, il y a des jésuites comme Gratian, par exemple, qui publie des choses que le supérieur général des jésuites n'est pas d'accord avec. Par exemple, sur l'homme de cour, le Criticon, par exemple, qui est un roman très important qui va aussi jouer un rôle dans la constitution de l'univers romanesque du XVIIe. Et les jésuites sont les propagateurs, un des vecteurs de propagation, ce n'est pas les seuls, mais c'est un des vecteurs importants parce que c'est un ordre qui est présent en Italie, en Espagne, en France, et donc ça favorise la circulation des choses. Et puis c'est aussi dans l'ère du temps, parce que tout le monde connaît l'Académie des sciences qui a été fondée dans la seconde partie du XVIIe, mais il y a une antériorité à l'Académie des sciences, l'Académie du Père Mersenne, l'Académie Spartiensis, qui est une académie des sciences avant la lettre. Et Mersenne, il est le centralisateur On pourrait comparer ça à la recherche ou à Scientific American aujourd'hui. Donc, il y a vraiment cette idée de circulation des choses. Au fond, on est très, très européen. Aujourd'hui, on est finalement moins européen que... C'est pas nouveau, hein, parce que dans l'Europe médiévale, c'est déjà comme ça. L'Europe du XIIe siècle, par exemple, à Cluny, il y avait 900 moines de noviciat. On venait de Pologne à Cluny. Hein.
Ça donnera de l'espoir à tous les Européens. Là,
voilà. Donc, au XVIe, on est très européen, les choses circulent, ça continue au XVIIe, ça va évidemment continuer au XVIIIe. C'est aujourd'hui que, comme certains ont des problèmes, même des vapeurs avec l'Europe, on a du mal à comprendre que, au fond, l'Europe est européenne depuis longtemps.
Mais on l'oublie peut-être parce qu'il y a eu ce mouvement des États-nations entre-temps.
Oui. Bon. Et puis bon, il y a eu deux conflits mondiaux qui ont déchiré l'Europe. Et dans le cœur, ça se situe en Europe.
C'est aussi des conséquences des États-nations d'ailleurs. Bon, enfin, là, on est loin de notre
sujet. Oui, absolument.
Alors,
c'est un tout autre sujet. Ouais. Donc, il y a vraiment cette importance du théâtre espagnol et qui va vraiment donner l'impulsion au théâtre en France, notamment à travers Molière. Hein.
Et donc, on en arrive à Molière. Alors, comment, ce que vous dites là, c'est que Molière, notamment, s'inspire de Molina, par exemple. Molina,
oui, mille œuvres. Le mythe de Don Juan. Alors, en Espagne, on le donne pour vrai, pour une histoire vraie qui est remontée au XIVe siècle. La première trace qu'on en a, en tout cas... c'est chez Tirso de Molina. Alors, il y a eu plusieurs Don Juan, même en France, hein, avant Molière, il y a un Don Juan d'un certain Dorimon que tout le monde a oublié, je pense. Mmh. Mais donc, Tirso de Molina, alors, j'ai pas la date exacte, je sais pas si on l'a d'ailleurs, mais il écrit une pièce qui s'appelle L'abuseur de Séville. Hein, et qui reprend donc cette histoire donnée pour vraie avec le commandeur. Et ça, c'est vraiment la première trace écrite du thème de Don Juan qu'on ait dans la littérature européenne. Et ça va inspirer à un certain Molière en 1664. Alors souvent, on parle de Don Juan et le festin de pierre, non seulement pour le distinguer de l'abuseur de Séville de Tirso de Molina, qui s'est aussi appelé Don Juan parce que la pièce de Molina a été publiée sous différents titres, y compris avec le festin de pierre. En général, quand on parle de Don Juan et le festin de pierre, c'est qu'on parle de la pièce de Molière, d'autant plus que justement, l'histoire de, je vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais la pièce de Molière a subi des vicissitudes puisque dès la fin du XVIIe, elle a posé des problèmes moins que Tartuffe, mais elle en a quand même posé. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi. Et donc, elle a été mise en vers et édulcorée par un certain Thomas Corneille, frère de Pierre, qui d'ailleurs lui a succédé au fauteuil de l'Académie française. Et donc, elle a été jouée jusqu'au milieu du XIXe siècle dans la version de Corneille.
Version versifiée.
Donc, en général, aujourd'hui, on se sert de ça aussi pour bien préciser qu'on rejoue le texte de Molière qui, lui, a été écrit en prose.
Oui, d'ailleurs, c'est une question qu'on pourrait poser à plein de gens. Je suis sûr que, d'ailleurs, moi-même, j'aurais peut-être hésité à la question « Don Juan est-il écrit de Molière ?» Donc, est-il écrit en vers ou en prose ? Les gens souvent ont une hésitation, d'abord parce qu'il y a évidemment des pièces qui sont versifiées, et puis Don Juan se prêterait particulièrement bien à la versification. Bon, voilà. Dans son thème, voilà.
C'est important pour montrer que justement, parce que là on est même au-delà de la date de 1640 que j'ai donnée tout à l'heure, que les choses s'arrêtent jamais net et qu'il y a des choses qui continuent comme ça, parce que Don Juan c'est vraiment la pièce baroque par excellence, avec le dédoublement, la tromperie, qui sont des thèmes...
La présence de la mort, vous le
disiez. La présence de la mort, qui sont des thèmes récurrents tout au long de l'époque baroque. Et alors, il y a un autre point intéressant, c'est que cette pièce de Molière ne respecte pas la règle des trois unités, qui pourtant, à ce moment-là, est formalisée. Parce que dans le théâtre espagnol, dans les fameuses comédias, il n'y a pas la règle des trois unités. Au contraire, on a très peu de règles pour être le plus libre possible. Et le plus souvent, l'action d'une pièce se déroule sur 3 jours, le plus souvent. Et donc, on voit cette caractéristique de l'écriture baroque espagnole chez Molière en 1664. Ça montre bien que les catégories baroque, classique ou classicisme, parce que je fais une petite précision, le terme baroque n'existait pas à l'époque, et c'est vraiment l'historiographie relativement récente, c'est-à-dire quasiment fin 19e, le premier historien de l'art, c'est Burckhardt, et puis après, donc, Wolf Lynn, fin 19e, tout début 20e. Le terme classicisme n'est pas employé non plus. Par contre, le terme classique est employé quand même à l'époque, hein, parce que justement...
Avec le retour au classique.
On se réfère, oui, et puis la référence aux auteurs classiques, et au moment où on va mettre en place justement la règle des trois unités, on va vraiment parler de notamment à l'époque de Boileau, de classique.
Ce que vous dites là est important pour que les auditeurs comprennent bien, parce que effectivement, on pourrait penser que baroque et classique, ce sont des choses dites de tout temps, mais pas du tout. C'est une construction d'historien du 19e siècle. Ça, peut-être qu'on pourrait faire une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est entrer dans les mœurs, entrer dans l'usage, mais d'une manière qui est finalement extrêmement, extrêmement récente. Mais juste avant que vous ne reveniez sur ce sujet, on va écouter un morceau de musique de Stefano Landi. Je vous laisse en dire un mot, parce que là, on est vraiment en pleine période baroque, du coup.
Oui, donc c'est un compositeur romain, né et mort à Rome, 1587 à 1639. Et je crois avoir parlé dans une émission précédente en disant que tout se passait au début du 17e, en tout cas dans la première moitié du 17e, tout finissait par se passer à Rome, si vous
l'avez
souvenez
dit,
bien.
Oui, absolument.
J'ai parlé même, par exemple, de la cour du cardinal Barberini qui avait bien protégé les musiciens. Landi est un des musiciens qui a été protégé par le cardinal Barberini.
Donc, vous nous disiez que les termes de baroque et classique apparaissaient vraiment à la toute fin du 19e siècle chez les historiens.
Oui, alors je précise, baroque et classicisme, parce que le terme classique, comme je le disais, a été employé. Oui, c'est vraiment... en plus, c'est beaucoup l'historiographie de langue allemande, qui a été d'ailleurs assez prolifique. Bon, l'historien célèbre, encore une fois, Henry Wolf Lynn, qui a écrit un livre qui s'appelle Renaissance et Baroque. Et d'ailleurs, dans le monde d'expression allemande, germanique, encore aujourd'hui, finalement, il n'y a pas de classicisme. Le XVIIe siècle, c'est le baroque. Hein, et il n'y a qu'en France. Alors, nous, les Français, nous avons les mêmes problèmes avec ça que les Anglais ont avec le baroque. Ils ont beaucoup de mal à vouloir entendre que Shakespeare est probablement le plus baroque d'entre tous. Nous, on a cette question du classicisme, peut-être parce qu'on a parlé de classique au XVIIe, et que dans ce retour classique au XVIIe qui se fait plutôt dans la littérature, dans la seconde moitié du XVIIe, où on veut, en fait, la règle des trois unités, elle ne vient pas de nulle part. C'est qu'on lit beaucoup la poétique d'Aristote, qui, comme son nom ne l'indique pas, parle beaucoup du théâtre. Et donc, on a cette idée de formaliser et de mettre en place des règles pour le théâtre, notamment, tout le monde connaît la règle des trois unités, une unité de temps, de lieu et d'action, qui va finalement être respectée dans les grandes tragédies, aussi bien celles de Corneille que de Racine. Mais là, on est dans la seconde partie du XVIIe. Et puis, entre-temps, il y a eu, parce que tout ça participe, là aussi, c'est toujours des continents, des plaques continentales qui dérivent les unes par rapport aux autres. Il y a eu, donc, je l'ai déjà mentionné aussi, cet élément fondateur de la fondation de l'Académie française en 1635 sous l'impulsion de Richelieu, pour vraiment, dans ce monde de désordre, essayer de fixer, entre autres les artistes, de fixer l'identité qui échappait un peu par tous les ports. Donc,
histoire de se rassurer, mais c'est un grand classique, ça, oui, voilà. Si on peut dire.
Mais ceci dit, l'Académie va vraiment jouer son rôle plus tard. Mais dès le départ, elle a un rôle de purification quand même, puisque par exemple, Vaugelas, le grammairien, je ne sais pas s'il est encore bien connu aujourd'hui, c'est vraiment lui qui va être la vigie des règles du bon français, parce que l'idée, c'est l'idée vraiment d'épurer la langue de tous les termes anciens, de rénover la langue, de la moderniser.
C'est au XVIIe siècle que la langue française commence à se fixer, voilà. À se stabiliser. Elle est très, très mouvante avant ça.
Voilà, bien voilà. Sûr, donc ouais. Là, il y a une vraie volonté politique et qui va être relayée progressivement, mais progressivement, parce que l'art poétique de Boileau, j'ai plus la date exacte en tête, mais on est aux alentours de 1665-1670, hein, quand même. Donc ça met un certain temps, mais dans la dernière partie du XVIIe, effectivement, il y a des véritables règles qui se mettent en place, ce qui n'empêche pas qu'il y ait... Alors, je vais revenir sur l'histoire du classique baroque. C'est pour ça que ces termes sont problématiques, parce que qu'est-ce qu'il y a de moins classique et au contraire de plus baroque que les oraisons funèbres de Bossuet, hein, avec toutes les figures rhétoriques utilisées, l'emphase, l'hyperbole. Enfin, on est en plein dans l'utilisation du langage et de la rhétorique baroque. Donc, et pourtant, Bossuet, on le cite parmi les auteurs classiques. C'est vraiment donc cette idée de l'historiographie allemande. J'en ai parlé à propos de la musique, c'est-à-dire que dans l'historiographie allemande, encore aujourd'hui, on a cette vision chronologique des termes.
Oui, on appelle ce moment-là baroque.
Voilà.
Date à telle date.
Voilà. Alors nous, en France, c'est plus compliqué parce qu'on ne sait pas très bien sur quel pied danser. Il y a des historiens, par exemple, qui s'intéressent aux institutions politiques, beaucoup au XVIIe, qui vont parler d'un âge... d'une politique baroque, d'un âge baroque, en comprenant le règne de Louis XIV, que dans le domaine de la littérature, on associe au classicisme. En architecture, c'est pareil. C'est plus compliqué que ça.
Mais pour rester sur la littérature, tout change, en quelque sorte, à ce moment-là.
Oui, tout change, oui. Et d'autant plus que vraiment, on est vraiment, je l'ai dit à propos des sciences, mais on est vraiment dans un siècle de révolution, et des fois... Il y a des jalons de ces révolutions qui ont été posés avant le 17e. On n'est peut-être pas habitué à penser ça comme ça, mais moi, je cite trois personnes importantes. Je vais peut-être surprendre les auditeurs, mais dans la révolution des esprits, la révolution culturelle, parce que j'essaye de regarder ça aussi à la lumière, vous savez, de l'histoire des mentalités. Je m'intéresse beaucoup, c'est pas tout à fait sur ce sujet-là, mais à des auteurs comme Philippe Ariès ou Jean Delumeau. Philippe Ariès a fait beaucoup de travaux sur la mort, et donc ça m'a évidemment intéressé pour le baroque, et Jean Delumeau sur la peur, et donc ils ont travaillé évidemment sur cette période-là, et je crois que le problème de la littérature, c'est que l'histoire littéraire, je suis évidemment pas au fait de la pointe de la recherche en histoire littéraire aujourd'hui, mais pendant longtemps, l'histoire littéraire a eu un retard sur les autres arts, où on faisait purement l'histoire de la littérature sans trop s'occuper de ce qui se passait. On s'en occupait, bien sûr, mais pas suffisamment. Et on s'est privé pendant longtemps dans l'histoire de la littérature de l'apport des sciences humaines, hein, et notamment de l'histoire. Et il faut aller du côté de l'histoire qui en plus, depuis longtemps, ça remonte à l'école des Annales avec Bloch, Lucien Febvre, auteur justement d'ailleurs d'un livre sur le problème de Rabelais, le problème de l'incroyance au XVIe siècle, qui montre bien comment les choses bougent. Et je crois que pour la littérature, il faut vraiment aller de ce côté-là, c'est ce que j'essaye de faire, hein. Et donc les trois phares que je cite moi finalement pour ces il y a trois révolutions, c'est Machiavel, hein, donc ça c'est la révolution en politique, parce que il rejette l'idée que c'est la providence qui fait l'histoire, hein.
Oui, il donne les techniques de gouvernement.
Ça, c'est un vrai tournant. Hein, parce que justement, je parlais tout à l'heure de la vision théologico-politique médiévale qui a prévalu jusqu'à ce moment-là. Laquelle vision sous-tend que c'est Dieu qui fabrique les destins. Hein. Là, Machiavel, donc, c'est une révolution absolument fondamentale. Et je le cite, malgré les dates que j'ai données tout à l'heure, parce que ça continue à être lu et à avoir de l'effet au 17e.
Oui, et aujourd'hui encore.
Donc, et il a introduit quelque chose de tout à fait nouveau, qui est inconnu avant, c'est la notion de raison d'État. Donc ça, c'est vraiment très très important. L'autre phare, c'est évidemment Montaigne. Ça, c'est un vrai basculement aussi, parce que pour Montaigne, il n'y a plus l'homme, mais il y a des hommes, hein. Il est pleinement de son époque, ces basculements, cette déstabilisation du monde, il est en plein dedans, et il a vie, je vais faire une citation que j'ai notée, de toutes les choses, il n'en est pas une seule si vide, si nécessiteuse que toi qui embrasses l'univers. Tu es le scrutateur sans connaissance, le magistrat sans juridiction, et après tout, le badin de la farce. Voilà, donc ça c'est Montaigne. Ça, c'est un autre tournant, parce que il dit par ailleurs, l'homme n'est sorti de terre que pour faire à sa surface un court voyage, et quel que soit le chemin qu'il prenne, il faut toujours qu'il finisse par rentrer en son sein. Voilà. Donc il y a ce côté, cette introspection, parce que c'est pas qu'on se replie sur soi, mais il n'y a plus d'homme collectif avec tous les bouleversements qui interviennent.
Oui, c'est la subjectivité, l'individualité qui commence à faire...
Absolument, et voilà. Montaigne est vraiment l'homme par qui tout cela arrive. Alors, ça serait peut-être arrivé à quelqu'un d'autre, mais il se trouve que c'est par lui que tout cela est arrivé. Et puis la troisième révolution, bien sûr, j'en ai déjà parlé dans l'émission sur les sciences, c'est Galilée. Donc il faut avoir tout ça en tête, parce que c'est vraiment un changement considérable d'univers mental qui se produit.
Oui, et presque contemporain, au fond. Enfin, ça se passe en quelques dizaines d'années, mais à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est très peu de choses.
Ah ben, de toute façon, pour ce qui concerne Montaigne et Galilée, ils sont pratiquement contemporains.
Machiavel, pas tout à fait, mais pas très loin.
Mais Machiavel n'est pas si loin que ça avant.
Non.
Hein, donc, et puis, de toute façon, il est, d'une certaine façon, absolument contemporain, puisqu'on en fait une lecture assidue.
Oui, absolument.
Donc,
oui.
Vous voyez, donc voilà, ça, c'est très, très important de dire ça.
Alors, vous vouliez en arriver à Corneille, vous nous disiez tout à l'heure.
Oui, parce que, justement, l'illusion comique, c'est vraiment, en plus, une pièce dans le sujet, le théâtre dans le théâtre, comme d'ailleurs dans le théâtre espagnol. Donc il s'agit, c'est très difficile de résumer, c'est un peu comme l'Astrée d'Urfé ou même Clélie, c'est très difficile de résumer une œuvre baroque parce qu'elle
part dans beaucoup de sens différents.
Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Bon, le point de départ, disons que c'est un certain prix d'amant dont le fils Clindor est parti sur une rupture brutale. Prédemment, il vit en Bretagne, donc il vient avec un ami voir un magicien qui s'appelle Alcandre pour essayer d'avoir des nouvelles de son fils, parce que pris d'amant, il voudrait bien savoir ce que son fils est devenu depuis 10 ans, et puis il regrette comment ça s'est passé. Alors Alcandre, c'est un magicien expert en charme, et il explique à prix d'amant, écoutez, je vais vous raconter ce qui est arrivé à votre fils, vous allez vous placer dans la caverne, parce qu'il a une caverne, Alcandre, et je vais faire défiler des charmes qui vont vous raconter l'histoire qui est arrivée à votre fils. Alors déjà, on peut noter qu'on est en plein dans le mythe de la caverne, donc vraiment la référence à l'antique. Mais en même temps, c'est autre chose aussi, puisque intervient le merveilleux par l'intermédiaire d'Alcandre. Et si vous vous souvenez bien, dans une brève mention, parce qu'il aurait fallu faire toute une émission sur la rhétorique, mais j'ai expliqué en parlant de Thésauro le reproche qu'il faisait à Platon de passer à côté du merveilleux. Vous voyez, vous vous souvenez de ça ?
Oui, tout à fait.
Donc voilà, là, justement, on a cette rencontre de choses qui... initialement ne sont pas connexes, c'est à la fois donc la référence au mythe de la caverne, et on le comprend bien de l'optique baroque, les apparences, les ombres, exactement bien comme sûr. Les hommes de la caverne de Platon, et puis en même temps cette introduction du merveilleux, parce que c'est une dimension importante du baroque, parce que on a plusieurs façons de réagir face à la mort, à l'incertitude, c'est l'ironie, la parodie qu'on va trouver d'ailleurs dans l'illusion comique, mais aussi le merveilleux, le magique. Et donc Corneille emboîte ce registre-là. Et je dis bien emboîte parce que finalement, il y a vraiment trois emboîtements dans la pièce. Il y a l'histoire de prix d'amant par rapport à son fils. Il y a la troupe de Clindor, parce que Clindor lui-même est un personnage à identité incertaine, double, multiple, parce que bien qu'il ait emprunté une grosse somme d'argent à son père, enfin emprunté, dérobé, finalement très vite il n'a plus d'argent, donc il fait toutes sortes de métiers, il change constamment d'identité, thème éminemment baroque. Et finalement, il rencontre Matamor, et pour atterrir dans une troupe de comédiens. Et en fait, ce à quoi va assister Prudhomme, c'est à l'histoire de son fils qui est en train de jouer une pièce de théâtre dans laquelle il courtise, il a des aventures multiples, il a une maîtresse, mais il est amoureux d'une certaine Isabelle qui est un chevalier servant qui prend ombrage de la cour de Clindor, et donc ce chevalier servant tue Clindor pour se débarrasser de lui. Et Prudhomme regarde tout ça et il croit assister à la mort de son fils.
Alors qu'il s'agit d'une pièce de théâtre.
En train de revoir son fils jouer une pièce de théâtre. Donc il y a vraiment le théâtre dans le théâtre. Et le spectateur devient lui-même un acteur parce qu'il est celui qui regarde le théâtre dans le théâtre.
Oui, on voit toute la complexité de la construction de l'illusion comique éminemment baroque, qui rappelle dans la construction certains éléments de Shakespeare aussi. On va conclure là-dessus aujourd'hui, et nous continuerons probablement la prochaine émission avec vous, Philippe Frétinier, et nous parlerons d'architecture cette fois. Merci, au revoir.